Alors, on est de retour déjà, hein. Ça va vite.
On est de retour,
mais
Olivier,
vous savez,
ça
des
va
fois,
très
on fait une petite pause musicale, mais la petite pause musicale, comme on continue à parler, on s'en rend même pas compte, mais elle existe. Alors, petite pause musicale, et on revient avec Sophie Vidal pour la CGT34, oui. Et pour nous parler de ces grandes difficultés. Et hélas, on se rend compte que rien ne va dans le bon sens, tout est en retard. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, les pouvoirs publics, depuis l'État jusqu'au département, etc., tout le monde se renvoie la balle.
Tout à fait, tout le monde se renvoie la balle. Et ce qui nous inquiète aujourd'hui, Olivier, puisqu'il inquiète la CGT, évidemment, c'est que tout semble minutieusement maillé. Vous parliez de Bruno Retailleau tout à l'heure, qui a fait tomber la circulaire Valls le 25 janvier, si mes souvenirs sont bons, 2025. C'est une circulaire qui datait de 2012. Et qui, parallèlement, là, vient de déployer donc sur le terrain plus de 4000 policiers pour aller contrôler les identités, notamment dans les trains, dans les gares.
Ça s'appelait dans d'autres époques, une rafle.
C'est un petit peu ça, sous prétexte de 78.2 du code pénal. Donc on a le droit de contrôler toute personne pouvant nuire ou peut-être potentiellement à l'ordre public, bref.
Et on a vu avec des journalistes honnêtes, ça existe encore, qui ont fait des études là-dessus, ils ont été dans les gares, ils se sont fait d'ailleurs sortir de la gare.
Et bien voilà.
Parce qu'on leur a dit qu'eux, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la gare. Alors, je parle des journalistes, par exemple, hein, des médias indépendants, comme Blas, comme Le Média, et comme même de la CGT. Il y a aussi des pôles qui informent d'informations de la CGT. On les a sortis de la gare. Par contre, M. Retailleau, dans la gare du Nord, était accompagné de CNews et d'autres.
Ah, tiens, c'est
et Europe 1.
Ils ont dû se faire recevoir
dans
le Nord.
Eux, ils avaient le droit de rentrer dans la gare. C'est bizarre.
Le Nord, c'est un peu le berceau de la lutte ouvrière, hein, avec les mines courrières. Ils ont dû se faire recevoir.
Et donc, ces journalistes, je parle de ceux qui étaient à l'extérieur, ont constaté à quel point c'était, comme d'habitude, avec des contrôles vraiment orientés aux faciès.
Oui, sur Paris, oui. Vraiment, sur Paris, mais je viens justement du Nord, de Dunkerque, non pas de la gare du Nord, mais de Dunkerque. Et il est vrai que la présence policière dans les trains est massive. Notamment sur ces secteurs-là. Alors, il ne faut pas se cacher, ce qu'ils traquent, ce sont les migrants. De toute façon, c'est l'ordre qu'ont reçu les forces de police. Alors, d'un côté, vous avez l'État qui traque officiellement les migrants et la CGT intérieure qui dénonce cette traque, parce que pendant que les policiers traquent, ils n'assurent pas la sécurité, bien sûr, et la prévention, ce qui est leur de mission première. Donc, ils traquent au faciès et ça nuit...
La police de la République, vous voulez dire.
Oui. Ce qui nuit, évidemment, en plus à la relation qu'ils ont avec les citoyens.
Avec nous, les citoyens. Et puis, peut-être qu'ils s'inspirent aussi de méthodes qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Qui maintenant commence à faire de l'entrisme chez nous. Hein. On dit, oh, bah, c'est pas mal ce qu'il fait quand même, vous avez vu. Lui, au moins, il y a des résultats.
Oui.
Bah, quel résultat et à quel prix ?
Et quand vous me parliez, parce que ça me fait écho, quand vous parliez tout à l'heure, Olivier, de la presse qui est refusée dans une gare et de la presse qui est sélectionnée dans une gare, ça me fait écho aussi, si on retourne une soixantaine d'années, allez, 80 ans en arrière, entre celui qui a le droit d'être sur le terrain, celui qui n'a pas le droit et le contrôle de la presse, les échos sont sanglants.
Oui, donc, donc tout ça, eh ben, il faut lutter contre et donc la CGT participe activement à essayer d'ouvrir les yeux, les oreilles et la parole.
Et la lutte contre les idées extrêmes, bien sûr. Donc, ce qui me fait dire que c'est maillé, si vous voulez, c'est que je retrouve, moi, directement, sur mon terrain ici, départemental et sur Montpellier, cette même politique et son application au niveau des associations qui encadrent ce public migrant ou primo-arrivant, ou avec des origines diverses et variées.
Et voilà. comme on disait aussi la dernière fois, et qui ne viennent pas forcément de leur plein gré.
Qui ne viennent pas forcément de leur plein gré, bien évidemment, qui ont servi à reconstruire la France de toute façon après-guerre et qui aujourd'hui ne sont toujours pas si bienvenus que ça. La preuve, on coupe les droits. Finalement, et on leur enlève le personnel qui était là pour les soutenir avec la disparition des centres sociaux d'adage, mais avec les APS qui sont voués à disparaître au 1er septembre, d'après M. Kléber Mesquida. Voilà, par la présidence, ça a été ramené par la présidence des APS, M. Besson. 1er septembre, on ferme Béziers, on ferme Frontignan. Attendez, je dis pas de bêtises, on ferme 7 Frontignan, Béziers. Lunel est en suspens, donc on a 3 pôles fermés, un pôle sur la Sellette, et on perd deux postes sur Montpellier pour les APS 34.
Voilà, deux postes de mien. Alors que pour les auditeurs, deux postes, c'est énorme.
Ben oui, parce qu'ils sont 12.
Voilà, donc ça fait quand même une sacrée différence.
Mais oui. Alors au début janvier, ils devaient perdre 25% de leurs effectifs. Oui. Juin. Finalement, alors, ils perdent 35%. Mmh. Et entre-temps, ce qui est magique, c'est que le 11 février, le département fait un contre-communiqué au communiqué CGT et dénonce quelque chose qui, pour eux, n'a pas lieu d'être. On ne parle pas de coupes budgétaires. Et je vois que le 18 juin, ils font pareil. Mmh. Ils dénoncent aussi d'éventuelles coupes budgétaires et ils balancent toute la responsabilité sur les villes qui ne soutiennent pas assez financièrement.
C'est peut-être un peu simpliste, on va dire.
Peut-être un peu simpliste.
Ouais, un peu simpliste. Et puis, comme on disait tout à l'heure, tout le monde refuse de prendre vraiment ses responsabilités par rapport à ce domaine.
Complètement, Olivier. J'ai deux choses l'une aussi. Deux choses l'une. Eux, ça y est, c'est effectif chez eux. Le PSE, il est en place. Il leur reste 3 salariés. Ils ont tombé 50% des effectifs. Ces 3 jeunes femmes s'occupent de 95 personnes migrantes qui ne possèdent pas le français.
Vous entendez bien, 95
personnes.
3 personnes.
Dans des conditions plus que précaires. L'alimentation est stockée dans un conteneur à bateau, avec pour la réfrigérer un ventilateur.
Un ventilateur, c'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant. Par les températures actuelles.
Actuelles. Alors par les températures actuelles, nous on a des plans canicules. Hein, dans les institutions, on fait attention. Ils n'ont rien. Voilà, rien. À peine un ventilateur de temps en temps dans un des Algéco. Mmh. Pour certains, pas pour d'autres. Là-dedans, il y a des familles qui sont accueillies entières avec des enfants en bas âge. On a 95 personnes sur le site, 3 salariés qui restent, sans direction aucune maintenant. Il n'y a plus de direction.
Il n'y a plus de personnes vraiment responsables.
Non.
Vraiment. Donc il faut que ces personnes qui continuent, je ne sais pas comment d'ailleurs, à travailler, il faut qu'elles prennent toutes les initiatives, il faut qu'elles s'occupent de tout.
Donc la seule chose qu'elles puissent faire aujourd'hui, elles refusent les entrées. Elles vont refuser les entrées à partir de jeudi. Elles ne prendront plus de personnes migrantes parce qu'elles ne peuvent pas assurer leur sécurité et travailler plus. Mmh. Elles font le maximum tous les jours et elles n'organiseront plus les sorties non plus. Elles vont s'occuper des 95 personnes qui sont avec elles. Et elles sont
possible,
dépourvues.
Mais c'est très, très compliqué.
Oui, on pense à une intervention de la Ligue des droits de l'homme, bien évidemment.
Oui. La LDH devrait peut-être se pencher un peu aussi sur ce problème qui est là, à nos portes, à Montpellier. C'est à nos portes, hein, c'est là.
Tout à fait.
C'est là, justement.
Il s'agit de personnes en très grande précarité qui sont concrètement abandonnées dans un parc, dans des Algéco.
Voilà. Eh bien, écoutez, ça sera hélas le mot de la fin, mais j'espère pas. Parce que vous reviendrez nous donner des nouvelles. Et puis, j'espère que de temps en temps, vous viendrez avec de bonnes nouvelles.
J'espère aussi,
oui,
Olivier.
Oui, voilà. Puis, on aura l'occasion de reparler un peu de tout ça. Parce que c'est un ensemble. Et ce qu'on voit ici concrètement, ça vient d'une politique globale.
Une politique globale. On en voit les effets directs.
Voilà, vous voyez, on voit progressivement ce qui peut se passer.
Complètement.
À partir d'effets d'annonce aussi. Hein, c'est la grande spécialité dans notre pays, dans nos gouvernants. On annonce que... Et on change les noms. Ça aussi, ça, c'est très bien. On change le nom des institutions, des machins. Et, après, on ne donne pas les moyens.
C'est ça, France Travail.
Voilà.
On a changé le nom.
France Travail, entre autres.
Entre autres.
Merci beaucoup, Sophie, d'être venue, en tout cas, et à bientôt.
Merci à vous, Olivier.
Et bon courage à la CGT pour son action qui est toujours militante et concrète.
Merci beaucoup, Olivier.